de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le procureur allemand a arrêté un chercheur russe soupçonné d'espionnage. Le dirigeant de la junte birmane rentre en Russie assistant à une conférence sur la sécurité. Les États-Unis ont échoué en Afghanistan, a déclaré Hamid Karzai. L'Union européenne inclut dans la liste noire 86 individus et entreprises biélorusses. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Un homme russe travaillant comme assistant de recherche dans une université allemande a été arrêté pour suspicion d'espionnage. Le procureur allemand l'a accusé d'avoir transmis des informations au service de renseignement russe. Le suspect, identifié uniquement comme Ilnur N, a été arrêté vendredi 18 juin. Son domicile et son lieu de travail ont été perquisitionnés par les autorités. Lundi, le procureur fédéral a déclaré qu'il travaillait comme assistant de recherche pour une chaire de sciences et de technologie dans une université allemande. Le procureur n'a pas nommé l'université ni précisé dans quel pays l'homme a été arrêté. Il est accusé d'avoir rencontré des membres du service de renseignement russe au moins trois fois d'octobre de l'année dernière, ce mois-ci. L'homme aurait remis des informations sur l'université en échange d'argent. Cependant, le procureur n'a pas mentionné le montant d'argent que le suspect a obtenu. Samedi 19 juin, le juge a ordonné l'homme de rester en détention en attendant la prochaine accusation possible. Le chef de la junte birmane, le général Min Aung Hlaing, serait rendu en Russie pour une conférence internationale. C'était aussi son deuxième voyage à l'étranger depuis le coup d'État du 1er février. Selon le média de la junte militaire MRTV, qui était rapporté par Reuters, Aung Hlaing est parti pour Moscou pour assister à la conférence sur la sécurité internationale qui s'est tenue du 22 au 24 juin. Auparavant, Aung Hlaing était rendu à l'étranger pour assister au sommet de l'ASEAN, Jakarta, fin avril. Le coup d'État en Birmanie a été sous les projections de nombreuses partis et institutions internationales, donc l'Organisation des Nations Unies. L'Assemblée générale des Nations unies a appelé un embargo sur les armes contre la Birmanie. Ils ont également exhorté l'armée à respecter les résultats des élections de novembre et à libérer les prisonniers politiques, dont Aung San Suu Kyi. Mais la version de la junte du ministre des Affaires étrangères de la Birmanie a rejeté la résolution de l'ONU, alors que l'envoyé de la Birmanie auprès de la version des Nations Unies du gouvernement dessous, Kyaw Moe Tun, a voté en faveur de la résolution. L'ONU elle-même le considère toujours comme un envoyé légitime. L'ancien président de l'Afghanistan a déclaré que les États-Unis sont venus dans son pays pour lutter contre l'extrémisme et apporter la stabilité. Mais 20 ans plus tard, l'oncle Sam est parti après avoir réussi à atteindre l'Edo. Karzai a fait valoir ce point dans une interview avec l'Associated Press qui a eu lieu des semaines avant que les troupes américaines et l'Alliance européenne de défense, l'OTAN, ne quitte l'Afghanistan. Hamid Karzai a déclaré que les troupes étrangères avaient abandonné la catastrophe et sont parties lorsque l'extrémisme était son plus haut. C'est ce qu'a dit Karzai, cité par Ahram, lundi 21 juin. Il a déclaré que l'héritage des troupes étrangères en Afghanistan était une honte et un désastre total. Karzai, qui est au pouvoir depuis 13 ans, a eu une relation de tir la corde avec les États-Unis. Il a dit que le peuple afghan veut vraiment la paix et doit maintenant assumer la responsabilité de son propre avenir. L'Union européenne a imposé lundi des interdictions de voyager et des gels d'avoir à 86 individus et entreprises biélorusses, mais rapportera la décision sur le moment où les sanctions économiques seront imposées à ses dirigeants. C'est ce qu'a déclaré le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère, Josep Borrell, lundi. Il a déclaré que dans le but de faire pression sur le président Alexandre Loukachenko à propos de l'atterrissage forcé de l'avion de Ryanair à Minsk le 23 mai, les sanctions individuelles couvrirait 66 Biélorusses, dont les ministres des Transports et de la Défense, ainsi que 8 agences d'État. Les diplomates ont déclaré que cette décision pourrait être coordonnée avec des sanctions similaires imposées par d'autres pays occidentaux, tels que la Grande-Bretagne et les États-Unis. Vendredi, les pays de l'Union européenne ont temporairement adopté des sanctions économiques contre les secteurs pétroliers, potassiques et bancaires dans le but de punir Loukachenko pour avoir intercepté un vol Ryanair le mois dernier et arrêté le journaliste dissident Roman Protasevich et sa petite amie Sofia Sapega qui étaient à bord. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Les cas locaux quotidiens de COVID-19 à Taïwan lundi 21 juin, pour la première fois en plus d'un mois, sont tombés en dessous de 100 alors que la pandémie continue de s'atténuer. Depuis mai dernier, Taïwan lutte contre un pic de cas locaux, durcissant les restrictions sur le rassemblement privé et fermant les lieux de divertissement. Les responsables signalaient que la mesure devrait être prolongée au-delà du 28 juin, limite du plan de suppression. Le ministre de la Santé, Chen Shih-chu, a annoncé l'ajout de 75 cas de COVID-19, selon lui, avait la tendance de diminuer. Selon Chen, le public ne devrait pas être négligent et devrait toujours porter des masques et se laver les mains. Lundi était la première fois que le nombre quotidien de cas est tombé en dessous de 100 depuis 15 mai, lorsque Taïwan a révélé le statut d'alerte dans la capitale Taipei et les villes voisines après un pic soudain de 180 cas locaux. À ce jour, Taïwan compte 14 080 cas de COVID-19, dont 500 69, décès. Le ministre du Commerce, Mohamed Lotfi, est la ministre canadienne de la petite entreprise, de la promotion des exportations et du commerce international. Mary Ann ont officiellement lancé le plan pour entamer les négociations sur l'accord de partenariat économique global Indonésie-Canada. La mise en place de cette négociation a été menée par les deux pays avec la conscience et l'espoir que la mise en place de l'accord de partenariat économique global Indonésie-Canada pourrait ouvrir divers avantages en termes d'opportunités commerciales et d'investissement pour les acteurs commerciaux des deux pays dans leur ensemble. C'est ce qu'a déclaré Mohamed Lotfi dans un communiqué officiel après avoir assisté virtuellement au lancement à Jakarta lundi. Le ministre du Commerce a déclaré que le lancement de l'accord de partenariat économique global Indonésie-Canada était une étape importante dans les relations de 69 ans entre les deux pays. Cet accord devrait soutenir la croissance économique, le commerce et l'investissement, y compris la création d'emplois pour la population des deux pays. En outre, selon le ministre du Commerce, cet effort est réalisé comme l'une des stratégies visant à renforcer la coopération étrangère entre l'Indonésie et le Canada en tant que partenaire égaux important et stratégique, surtout au milieu d'un changement géopolitique mondial très dynamique. La ville de La Havane, Cuba et la ville d'Ambon en Indonésie explorant une collaboration Wilser dans les domaines de la musique et de l'éducation. C'est ce qu'a déclaré lundi l'ambassadrice de la République d'Indonésie, Cuba, Nana Juliana, lors du webinaire de la série d'experts Jising, animé par le ministère indonésien du Tourisme et de l'Économie. Elle a déclaré que l'Indonésie et Cuba avaient établi des relations depuis 60 ans, comme en témoigne leur soutien mutuel dans toutes les activités internationales. Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies le 22 janvier 1960, qui a été marqué par la visite du premier président de l'Indonésie, Sukarno, dans la capitale de Cuba, La Havane. Le président Sukarno était également un ami proche du premier ministre Fidel Castro, de sorte que l'arrivée de Sukarno à Cuba est devenue le début des relations diplomatiques entre l'Indonésie et Cuba. Parallèlement, le maire de La Havane se félicite également de la coopération avec la ville d'Ambon et facilitera diverses collaborations. Ambon, La Havane ont été et récompensés par l'UNESCO en tant que ville de la musique et ville créative respectivement en octobre 2019. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Ayo maju, ayo maju.
Cerita bonsoir, voici le commentaire et encore le titre. Jakarta célèbre son anniversaire avec inquiétude. La ville de Jakarta est née le 22 juin 1527. Aujourd'hui, Jakarta a exactement 494 ans. Habituellement, Jakarta organise diverses festivités pour célébrer son anniversaire. Mais depuis l'année dernière, les festivités sont annulées. La pandémie de COVID-19 a fait des festivités et des foules une source de ravages plutôt que de joie. Un an et demi s'est écoulé depuis que la pandémie a frappé l'Indonésie. Après la tendance à la diminution du nombre de transmissions de COVID-19 pendant une courte période, le nombre quotidien a de nouveau augmenté. DKI Jakarta a enregistré lundi l'ajout de 5014 cas. Pourtant, le total à 479 043 cas, c'est un nouveau pic pour l'Indonésie. Comme tenu du nombre élevé de cas dans la capitale, le gouvernement provincial de DKI Jakarta, aidé par TNI et Polri, a renforcé les restrictions à la circulation des résidents. Lundi soir, les restrictions à la mobilité des usagers de la route ont commencé sur certaines routes. Dans cette situation préoccupante, le gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan, continue d'organiser une cérémonie dans la cour de l'hôtel de ville pour commémorer le 494e anniversaire de Jakarta. Des cérémonies au niveau de la ville et de la région se déroulent à la mairie en impliquant les salariés et en appliquant les protocoles sanitaires. Au milieu de la pandémie, le gouvernement provincial de Jakarta est toujours enthousiaste à l'idée de commémorer l'anniversaire de Jakarta, même si cela se fait de manière très limitée. Le thème de l'anniversaire de Jakarta de cette année est « Os Jakarta ». Ce thème a été choisi pour signifier la relance de l'économie, les conditions sociales et le développement durable pour créer une ville de Jakarta résiliente. Espérons que la pandémie ne freinera pas l'enthousiasme des habitants de Jakarta à continuer à travailler et à se lever pour réaliser ses idéaux. Serge Ritter, c'était le commentaire pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir, chers auditeurs. L'histoire d'aujourd'hui va commencer avec l'événement du 22 juin 1941, les troupes allemandes attaquent l'Union soviétique. Le 22 juin 1941, plus de 3 millions de soldats allemands, renforcés par un demi-million de soldats, à savoir des soldats finlandais, romains, hongrois, italiens, slovaques et croates, ainsi qu'espagnols, ont attaqué l'Union soviétique depuis la mer des Balkans au nord jusqu'à la mer Noire au sud. Trois groupes de l'armée de terre allemande ont pénétré profondément dans le territoire soviétique. Des millions de soldats soviétiques ont été encerclés et forcés de se rendre. Les troupes allemandes ont continué d'avancer jusqu'à la périphérie de Moscou. En décembre 1941, l'Union soviétique lance une contre-attaque obligeant l'Allemagne à retirer ses troupes de Moscou. Notre information est sur la charte de Jakarta a été approuvée par le comité 9 dirigé par Sukarno le 22 juin 1945. Le 22 juin 1945, un consensus national sur la base de la République d'Indonésie a été atteint dans la séance de l'agence d'enquête pour les efforts préparatoires à l'indépendance de l'Indonésie, BPUPKI. Le consensus national s'appelle la Charte de Jakarta. La Charte de Jakarta a été rédigée et signée par 9 représentants de groupes nationaux islamiques, également connus sous le nom de Comité 9. La Charte de Jakarta devient le préambule de la Constitution de 1945 et contient 5 préceptes sur le Pancasila avec le premier principe divinité avec l'obligation de pratiquer la charia islamique pour ses adhérents. Le premier principe était changé pour le Dieu Tout-Puissant par l'un des membres, à savoir Dr. Andes Muhammad Hatta. On termine avec l'événement du 22 juin, l'anniversaire de Jakarta. Le 22 juin était désigné comme l'anniversaire de la ville de Jakarta par Sudiro, le maire de Jakarta de 1953 à 1958. Sudiro a fait référence à un texte intitulé « De Jayakarta à Jakarta » qui mentionnait que le 22 juin 1527 était le jour le plus proche de la construction de la ville de Jakarta par Fatahillah. Le manuscrit a ensuite été soumis par Sudiro au conseil représentatif de la ville provisoire qui a ensuite déterminé le 22 juin 1527 comme fondation de la ville de Jakarta. Depuis ce moment, chaque 22 juin, une session spéciale du conseil régional représentatif du peuple, DPRD de Jakarta, est organisée comme une tradition pour commémorer la fondation de la ville de Jakarta. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Kau mempesonaku. Gayamu yang lucu, gayamu yang ceria, cara berjalanmu dan kehadiranmu itu menggemaskan, daku membuat malu dan tersipu, sipu memerah pipimu. Sungguh lucu kamu, senangnya hatiku melihat tingkahmu saat itu.
Kau manis, sungguh penuh ceria, seakan tiada lagi tara yang mewarnai dalam hati dan menembus batas leluhur.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie, intitulée L'Indonésie élue membre du conseil de la FAO pour 2021-2024. Vous êtes avec moi, Audrey. Chargé du tard, une série de 42e conférences de l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, s'est tenue en ligne au siège de la FAO à Rome du 14 au 18 juin 2021. Lors de cette réunion, L'Indonésie a été élue avec succès en tant que membre du Conseil de l'Agence pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies, FAO. Comme cité par la page ministry.go, 20 juin, l'Indonésie est un représentant du groupe régional asiatique avec 5 autres pays asiatiques comme le Bangladesh, la Chine, le Japon, les Philippines et la Corée du Sud. La période d'adhésion de l'Indonésie de la FAO commencera de juin 2021 à juin 2024. En outre, l'élection de l'Indonésie en tant que membre du Conseil de la FAO est une forme de reconnaissance internationale des progrès de l'Indonésie dans la réalisation de la sécurité alimentaire, de la nutrition et du développement agricole durable au niveau mondial, en particulier dans le cadre de la FAO. Dans sa déclaration officielle citée par la Repubblica, le ministre indonésien de l'Agriculture, Sahrul Yassin Limpo, était reconnaissant et appréciait la confiance de la FAO en Indonésie. Selon lui, cette confiance signifie la reconnaissance de la performance positive du secteur agricole indonésien. Il a ajouté que l'agriculture indonésienne était considérée comme s'étant considérablement développée par la FAO ces derniers temps. Le secteur agricole indonésien a contribué et maintenu une croissance économique positive. Auparavant, l'Indonésie a été membre du Conseil de la FAO pour les périodes 2012-2014 et 2015-2018. Ainsi, cela reflète également l'évaluation positive et la confiance des pays membres de la FAO en Indonésie pour mener à bien leur mandat en tant que représentants du groupe asiatique dans l'un des organes importants de la FAO. En tant que membre du Conseil de la FAO, l'Indonésie peut contribuer à la formulation de diverses politiques de la FAO qui soutiennent les efforts des États membres de l'ONU pour atteindre les objectifs de développement durable, ODD, en particulier l'ODD 2, pour éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire et une bonne nutrition et promouvoir l'agriculture. L'Indonésie aura également des droits de vote dans les discussions sur la gouvernance de la FAO, y compris la détermination des programmes de travail et des budgets, les questions administratives et financières et la législation. Le Conseil de la FAO est l'organe exécutif de la FAO composé de 49 États membres. Le Conseil de la FAO joue un rôle stratégique dans la formulation et la détermination des stratégies et politiques de la FAO pour faire face à divers problèmes et défis dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Bonjour, Jolitar, c'est tout l'émission Mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Menjagamu, aku memiliki pasukan yang hebat untuk mendampingimu. Aku memiliki pasukan yang kuat untuk melindungi. Menjagamu,
memiliki senjata nuklir yang mampu meledakkan dunia, dan memiliki strategi yang bisa mengalahkan musuhku terdepan. Pasukanku bernama pasukan cinta, dia siap sedia di garis depan melindungi kamu, menjaga dirimu, bertemu dalam energi untuk cinta.
C'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel, intitulé « Le poulet Sampyok ». Le 22 juin est commémoré comme l'anniversaire de Jakarta. Dans cette édition de magazine culturel, nous allons vous présenter une spécialité des Betawi, des gens qui vivent à Jakarta depuis longtemps. La cuisine Betawi est connue depuis longtemps pour son goût unique et délicieux. Il y a le semur jengkol, le dodol, le laksa, la croûte aux œufs et soto Betawi. En plus de ces divers délices culinaires, il existe également le poulet sampyok. Le poulet sampyok est l'un des aliments typiques de Betawi qui est acculturé avec les Chinois. Le poulet sampyok a une apparence semblable à un rendang avec un goût distinctif de la culture chinoise et Betawi. Le menu de poulet sampyok est souvent servi lors d'événements de célébration par le peuple de Betawi, Cela est principalement composé de poulet aux épices, comme des échalotes, l'ail, le poivre, le gingembre, la coriandre, le galanga et la citronnelle. Le processus d'assaisonnement est fait deux fois pour que les épices s'infiltrent dans la viande afin que les épices salées se fassent sentir jusqu'à la fin du repas. Après que le poulet est mélangé avec les épices qui ont été écrasées et sautées, le poulet est ensuite cuit jusqu'à ce qu'il devienne brun et ajouter le lait de coco et le poivre noir. Ensuite, griller jusqu'à ce qu'il soit cuit. Lorsqu'il est mangé, le goût du poulet est si délicieux et riche en épices. Le poulet Saint-Pierre est vendu pour environ 15 000 jusqu'à 20 000 rupiah par portion. Chers amis, c'est un magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Oh, penasaran jadinya. Oh, tatapannya buatku tergoda. Cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est multivitamine yang ini atau yang itu. Multivitamine yang ini atau yang itu. En français, c'est multivitamine si ou ça. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Multivitamine yang ini atau yang itu. Multivitamine yang ini atau yang itu. En français, cette multivitamine si ou ça. Cette conversation se déroule entre Kevin et le pharmacien. Le pharmacien a demandé à Kevin une option multivitamine. Bonne écoute.
Mau multivitamine yang mana?
Yang ini atau yang itu ya? Saya bingung.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Multivitamine yang ini atau yang itu? Multivitamine yang ini atau yang itu? En français, c'est multivitamine si ou ça. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois. Et puis vous pouvez me répéter. Multivitamine. Multivitamine. En français, multivitamine. Mau multivitamine yang mana? Mau multivitamine yang mana? En français, quelle multivitamine voulez-vous? Yang ini. Yang ini. Celle-ci. Atau. Atau. Ou. Yang itu. Yang itu. Celle-là. Yang ini atau yang itu ya? Yang ini atau yang itu ya? En français, celle-ci ou celle-là? Saya bingung. Saya bingung. En français, pas d'idée. Bapak perlu vitamin C atau E? Bapak perlu vitamin C atau E? En français, vous avez besoin de vitamine C ou E, monsieur? Saya perlu keduanya. Saya perlu keduanya. En français, j'en ai tous les deux. Perlu obat sakit kepala atau obat pusing? Perlu obat sakit kepala atau obat pusing? Avez-vous besoin de médicaments contre les maux de tête? Obat pusing. Obat pusing. Médicaments contre maux de tête. Kamu mau minum multivitamin tablet atau cair? Kamu mau minum multivitamin tablet atau cair? En français, tu voulais prendre des multivitamines comprimé ou liquide. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu la question yang ini atau yang itu ya? Yang ini atau yang itu ya? En français, celle-ci ou celle-là? Hein? Dans la question, il y a une conjonction atau. Atau, en français, ou. La conjonction atau, atau, ou, est utilisé pour marquer un choix entre plusieurs choses, soit sous la forme de mots, de phrases ou de clauses. Par exemple, yang ini atau yang itu ya? Yang ini atau yang itu ya? En français, celle-ci ou celle-là? Hein? Un autre exemple. Écoutons un autre exemple d'utilisation de la conjonction atau, atau, ou. Bapak perlu vitamin C atau E? Bapak perlu vitamin C atau E? En français, avez-vous besoin de vitamine C ou E, monsieur? Saya perlu keduanya. Saya perlu keduanya. En français, j'en ai besoin tous les deux.
Bapak perlu obat sakit kepala atau obat pusing? Bapak perlu obat sakit kepala atau obat pusing? En français, avez-vous besoin de médicaments contre les maux de tête ou contre les vertiges? Obat pusing. Obat pusing. Médicaments des vertiges. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Mau multivitamin yang mana?
Yang ini atau yang itu ya? Saya bingung.
Chers amis, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour ce soir. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Jangan mulai dengan pujian jika berakhir cacian.
Amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, voici le magazine musical. Dans cette édition, je vais vous présenter une chanson malaise intitulée Ujung Sirih, chantée par Asmidar Darwis. La chanson intitulée Ujung Sirih se compose de versets de rimes ou pantun. Les paroles parlent de quelques conseils de vie, dont l'un est d'être toujours honnête et ferme. Cette chanson musicale a un tempo rapide. La chanson intitulée Ujung Sirih a été réarrangée à plusieurs reprises et chantée à nouveau par de nombreux chanteurs. La chanson intitulée Ujung Sirih, chantée par Asmidar Darwis, est sur l'album de DBS Melayu Deli Asmidar Darwis, produit par Tanama Records. Asmidar Darwis est un chanteur né à Sumatra de l'Ouest qui est populaire en tant que chanteur malais. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée Ujung Sirih, chantée par Asmidar Darwis.
Tujuh setangkai, mengapa mayang jatuh mengurai?
tujuh setangkai. Mengapa mayang jatuh memurah? Kalau duit dekat ke pantai, kalaulah duit dekat ke pantai, mengapa nyiur asik melambai? Mengapa nyiur asik melambai? Ahai ujung sirih inilah lagunya. Ahai ujung sirih inilah lagunya. Tanam sirih di ujung batas, petik setangkai letak di peti. Tanam sirih di ujung batas, petik setangkai letak di peti. Jangan dikenang yang telah lepas, jangan dikenang yang telah lepas. Cari yang lain untuk pengganti, cari yang lain untuk pengganti. Ahai ujung sirih inilah lagunya. Ahai ujung sirih inilah lagunya. Janganlah aku tertampi-tampi. Kalau padi katakan padi, janganlah aku tertampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, kalaulah jadi katakan jadi. Janganlah aku ternanti-nanti, janganlah aku ternanti-nanti. Ahai ujung sirih pergi ke sana, pulangnya juga di waktu petang. Pagi-pagi pergi ke sana, pulangnya juga di waktu petang. Kalau dapat gading bertua, kalaulah dapat gading bertua, tanduklah jangan dibuang-buang, tanduklah jangan dibuang-buang. Ahai ujung sirih inilah lagunya. Ahai ujung sirih inilah lagunya. Ahai ujung sirih inilah lagunya. Ahai ujung
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.